Chapter 3 The Dream Factory.
Vous avez vu ça ? Articula Arthur sidéré. Non, mais vous avez vu ça ?
Contre toute attente, sa guide affichait une mine blasée. Le chauffeur non plus n'avait pas l'air très impressionné.
Childish, soupira Anna.
Childish ? Ça devait venir de child, donc enfant.
C'était quoi le rapport ? On parlait de meurtre, là.
À sa grande stupéfaction, l'homme qui avait été tué se releva. Son adversaire rigolait.
« Got you » lâcha-t-il.
« Je t'ai eu. » Sauf que, prononcé à toute vitesse, cela donnait plutôt « gotcha ». Le garçon remarqua alors que le buste de la victime n'était pas taché de sang, mais plutôt d'un liquide poisseux qui ressemblait à de la peinture verte.
« Du paintball ?» interrogea Arthur.
« Absolutely », confirma Anna en levant les yeux au ciel. « The staff here love to play that kind of game. They need something to take their minds off their computers, I guess. »
À force d'entendre le mot « staff », Arthur avait fini par mémoriser qu'il désignait le personnel, d'autant plus qu'il avait souvent vu ces fameux t-shirts imprimés « staff » dans les concerts, et les gars de la technique qui les portaient le faisaient généralement avec une certaine fierté. Et puis il avait identifié les mots « play » et « game » parce que Mrs. Page demandait souvent « Would you like to play a game ?» pour les stimuler un peu en cours. Donc le personnel jouait à des jeux. Quant à « minds off their computers »,« off » coupé, ou à l'extérieur d'eux. En l'occurrence, là, hors de leurs ordinateurs. Les membres du staff avaient besoin d'une coupure, autrement dit, de se sortir l'esprit, la tête de leurs ordinateurs. Ouais, ça pouvait se comprendre. Arthur avait vu des reportages sur les grosses boîtes américaines où les employés jouaient au ping-pong ou au baby-foot pendant leur pause. Le paintball, cependant, c'était une première. Malgré sa surprise, le garçon hocha la tête, soulagé. Les deux joueurs s'envoyaient des vannes en se donnant des tapes sur l'épaule. La voiture redémarra. Une fois sortie de la petite forêt de Sequoia, elle serpenta entre les collines disséminées dans la propriété. Des daims et des biches gambadaient en liberté, insoucieux des activités humaines.
« C'est magnifique, » dit Arthur sincère. « It's beautiful. »
Il avait entendu Anna utiliser ce terme plusieurs fois depuis son arrivée. Il n'était pas au bout de ses surprises, car ce décor n'était qu'un simple écrin destiné à abriter le joyau du domaine, le célèbre Mark Finn Ranch, doté de ses trois corps de bâtiments à deux étages chacun, le tout étalé sur 40 000 m².
Waouh !
Les bâtiments ressemblaient à de luxueuses habitations victoriennes avec quelques touches d'art nouveau, comme ces encadrements en forme d'arabesque florale. Les constructeurs avaient favorisé le bois et la pierre. Un promeneur candide aurait été incapable de suspecter que des installations à la pointe de la technologie se trouvaient derrière ces murs percés d'une multitude de fenêtres à meneaux. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale. Anna remercia le chauffeur, puis elle sortit du véhicule, suivie d'Arthur, dont le cœur battait vite et fort. Pensez donc, il attendait ce moment depuis des mois. Le duo gravit les marches du perron et entra dans le hall d'accueil. L'intérieur était nettement plus moderne que l'extérieur. Partout, du métal ou des surfaces vitrées réfléchissantes. On se serait presque cru dans un vaisseau spatial. Arthur sur ses talons, Anna s'avança jusqu'à la réception. Un guichet niché entre deux escaliers qui menaient aux étages.
« Morning, Anna. Good to see you. How are you ?»
demanda la charmante hôtesse d'accueil, une grande rousse aux yeux gris. L'incontournable « Comment ça va ?» agrémenté de sourires épanouis et d'une accolade à l'américaine, le fameux « hug ». Apparemment, les deux femmes se connaissaient bien. En même temps, ça ne voulait pas dire grand-chose. Les Américains avaient l'air nettement plus chaleureux que les Français, d'une manière générale. Ici, le côté « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » semblait être la norme. Enfin, si l'on acceptait les fonctionnaires de la douane. Anna répondit.
« I'm fine, thanks, Tina. Let me introduce you to Arthur, our contest winner. Arthur, this is Tina. Our young guest has an appointment with Edward. »
Le garçon se redressa tout fier. S'il avait bien compris, Anna le présentait et disait qu'il avait rendez-vous, appointment, avec le Big Boss. La réceptionniste, Tina donc, pianota sur l'écran tactile inséré dans son meuble, tourna quelques pages virtuelles puis hocha la tête.
« I'll let Ed know you're here. »
« Je vais prévenir Ed, » Arthur pensa. « Ça aussi, c'est bien américain. Elle appelle le patron par son diminutif. On ne verrait pas ça en France. » Il se rappelait à un documentaire consacré à Walt Disney, dans lequel on racontait que le créateur de Mickey insistait pour que tous ses collaborateurs l'appellent Walt. À première vue,
Latimer ne dérogeait pas à la règle. Une demi-douzaine de tonalités plus tard, la jeune femme grimaça.
No answer. That's weird. A security guard told me he was in his office. Apparently he came to work in the middle of the night. Well, I guess he'll have to wait.
Weird, ça voulait dire bizarre, étrange. Comme dans la série Weird Tales, les contes de l'étrange. Un vigile, security guard, avait affirmé qu'Edward était venu en pleine nuit, in the middle of the night, pour travailler, to work. Cette information n'étonna guère Arthur. Dans la biographie Latimer, the man in the myth, il était écrit que, lorsque l'inspiration le cueillait, le PDG de Pixel déboulait dans son bureau à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il avait réuni dans cet antre toutes ses figurines, ses récompenses, ainsi que les souvenirs de ses débuts dans le métier. Apparemment, il avait besoin de cet environnement pour créer. Le plus célèbre de ces gris-gris était un carnet magique, Magic Notebook, auquel un chapitre entier de la biographie était consacré. En fait, il s'agissait d'un simple agenda qui datait de la période où Latimer était encore étudiant à UCLA, University of California, Los Angeles. La future star de l'animation avait écrit l'embryon de ce qui allait devenir la saga Black Crystal dans ce carnet. Aussi superstitieux que fétichiste, Latimer avait conservé l'objet comme si celui-ci était doté de pouvoirs surnaturels. Arthur avait lu une interview où Latimer affirmait que ce banal cahier était une sorte de Midas. Il transformait ses mots en or. La réceptionniste passa un coup de fil à Nellie Olson, la secrétaire particulière de Latimer. Nellie confirma que le patron était enfermé dans son bureau avec la pancarte « Do not disturb », ne pas déranger, affichée sur la porte. Le message était clair. Arthur avait lu dans « Pixel, a never-ending story » que lorsqu'il entrait dans l'un de ses fameux « creative processes », processus créatif, Latimer détestait être interrompu et pouvait se mettre dans des colères noires si quelqu'un contrevenait à l'avertissement.
« Well, I'll take you on a tour of the studio then, and we'll come back later. Is that okay with you, Arthur ?»
demanda Anna. « Visiter les locaux et revenir plus tard ? Mais oui, plutôt deux fois qu'une. »
« That sounds fantastic, Anna !» affirma Arthur, qui se souvenait d'avoir entendu en classe cette formule censée véhiculer l'enthousiasme.
Mrs. Page aimait d'ailleurs beaucoup que l'on réponde ainsi à sa question.
« Would you like to play a game ?»
Le garçon et sa guide traversèrent un somptueux solarium avant d'entrer dans la cafétéria où quelques employés prenaient leur première pause de la journée en grignotant des donuts. La moyenne d'âge avait l'air assez jeune, 30 ans maxi, et la tenue de travail réglementaire se résumait à short plus chemise hawaïenne, avec les inévitables cocotiers et singes rieurs. Latimer lui-même était réputé pour ses chemises extravagantes. Il avait donné le ton à ses équipes en matière de look vestimentaire. Les hommes étaient barbus ou mal rasés, les femmes portaient des jeans déchirés et des t-shirts moulants. Là encore, c'était plus relax qu'en France. La salle dite « Creative Common Room » ressemblait à une ruche bourdonnante. Des dessins allant du brouillon à la fresque en couleur s'étalaient sur tous les murs. Arthur connaissait certains des décors ou des personnages affichés. Ici, une escadrille de Bips, des volatiles jaunes et rigolos. Là-bas, un croquis représentant Travis, l'homme à la crête, fidèle lieutenant de Mark Finn. Chaque illustration était tamponnée d'un sceau « confidential ». Après la ruche des créatifs, le duo explora une salle de post-production « Dernier cri », où des ingénieurs du son s'affairaient tels les techniciens de Cap Canaveral penchés sur leur console. Anna expliqua qu'ils étaient en train de mixer l'épisode 2 qui allait bientôt sortir dans des milliers de salles à travers le monde. Arthur aperçut un extrait où Mark Finn et ses compagnons traversaient un marécage monté sur des espèces d'hippocampes à deux pattes. Ça avait l'air trop génial. La visite se termina par la salle de projection privée où, chaque jour, les équipes de production visionnaient les rushs du film en cours de réalisation. Fauteuil de velours carmin, écran géant, son THX, Latimer n'avait pas regardé à la dépense. Anna jeta un coup d'œil à sa montre. On arrivait déjà à la fin de la matinée.
« Okay, let's try again and see if Ed is ready to see you. »
À ces mots, Arthur ne put s'empêcher de ressentir un tressaillement dans la poitrine. Il était sur le point de voir Latimer en personne. Ils montèrent au premier étage par un escalier de service. Ce dernier menait à un open space où travaillaient les responsables du licensing, c'est-à-dire les gens chargés d'autoriser, ou pas, la création de produits dérivés, comme l'expliqua Anna.
« This is where we deal with our licensing for all the merchandising products. For example, if you find a Pixel toy the next time you eat at McDonald's in France, you'll know it originally got a green light from here. »
Deal, faire un deal, passer un marché, quoi. Merchandising, ça ressemblait à marchandise. Donc, c'était ici qu'on concluait des marchés avec des entreprises désireuses de transformer les idées et les personnages de chez Pixel en produits, en marchandises. Anna avait pris l'exemple de ces jouets qu'on trouve dans les menus pour enfants des fast-food. Tout partait d'ici, recevait l'approbation de l'équipe ou le feu vert, comme disait Anna. Arthur ouvrit de grands yeux, fasciné par la profusion de gadgets, posters, mugs et affiches qui se déployaient devant lui. Il s'arrêta devant une maquette du Sinalta, le navire du pirate Itmar Roktes, grand méchant du premier film. Tous les détails étaient là. Chaque personnage important de la saga avait sa propre figurine. Celle de Mark Finn était déclinée en plusieurs tenues différentes. Simple étudiant, soldat de Singlass, pirate, garde du royaume de l'eau, etc. Un gros homme d'allure débonnaire montra une figurine collector à Arthur. Il s'agissait de Kat, l'homme-chat en tenue des terres immergées. « Do you like it ?» demanda le gros nounours. Un peu qu'il l'aimait. « Oh yes, it's fantastic !» répondit Arthur, enthousiaste. L'homme lui donna la figurine avec un grand sourire. « Take it, it's a present. » « Un cadeau ?»«
Oh, thank you !» remercia le garçon. « Thank you so much !»
Anna l'emmena ensuite dans un couloir aussi long que silencieux. Après l'ébullition des bureaux précédents, cela faisait un drôle d'effet. Même les pas des baskets d'Arthur étaient amortis par la moquette ultra-moelleuse. Anna et Arthur arrivèrent alors dans une sorte de sas, une pièce où travaillait une jeune femme visiblement très occupée. C'était Nelly, l'assistante de Latimer. Quand Anna et son invité entrèrent, elle leur fit le signe « Chut ». Elle avait l'air presque paniquée. Latimer était-il encore en train de faire chauffer son cerveau ? Arthur n'était plus certain de vouloir rencontrer quelqu'un qui terrorisait ses collaborateurs à ce point.
« Does he usually stay alone in his office for so long ?» demanda Anna à Nelly.
Apparemment, cette question, qui revenait à demander si le boss avait l'habitude de « does he usually » s'isoler, « stay alone » aussi longtemps, semblait poser un problème à Nelly. Celle-ci secoua la tête timidement.
« I'm ready to take the risk if you let me », said Anna. « You never know. Maybe he doesn't feel well. Have you spoken to him on the phone this morning ?»
Anna était donc prête à courir le risque de déranger Edward, en s'imaginant, on ne savait jamais, qu'il pouvait être malade. En réponse à la dernière question, Nelly fit encore non de la tête. Arthur se dit qu'Anna avait raison. Si la secrétaire n'avait pas eu de contact avec Latimer depuis la veille, comment savoir s'il n'avait pas été victime d'un malaise, seul dans son bureau ? Après tout, c'était un homme fort occupé, probablement surmené, et sur les photos les plus récentes, son embonpoint faisait de lui un candidat très crédible à un éventuel infarctus. L'oncle d'Arthur, un homme d'affaires stressé, habitué à manger aux tables des meilleurs restaurants, avait eu un problème cardiaque de ce type l'année précédente. Anna semblait prête à prendre sur elle les foudres du grand Manitou si jamais ses craintes n'étaient pas fondées.
« Ok, go ahead, » said Nelly,
en montrant la porte du fond, celle décorée du petit panneau d'avertissement. Anna l'ouvrit et disparut dans l'antre de la création, laissant Arthur et Nelly derrière elle. Tous deux se regardaient, dubitatifs, quand ils entendirent un cri strident en provenance du bureau de Latimer. Un hurlement de terreur.